Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mardi 9 mai 2017 au sommaire. Un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, plus d'un mois après la nomination de Bruno Tshibala. La mission de maintien de la paix en Centrafrique endeuillée par la mort de 4 casques bleus. 8 sont blessés et 1 toujours porté disparu. En Libye, les hommes du maréchal Haftar subissent de lourdes pertes lors d'une offensive contre les derniers bastions djihadistes à Benghazi. Et la Corée du Sud a un nouveau président. Le candidat de centre-gauche Moon Jae-in a été élu selon les sondages de sortie des urnes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, un mois après sa nomination. L'équipe de Bruno Tshibala a été dévoilée ce mardi à Kinshasa. De nombreux ministres de l'équipe sortante ont été reconduits, mais aucun membre du rassemblement que dirige Félix Tshisekedi n'en fait partie. Les détails avec Thierry Kambouni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 35 ministres et 11 vice-ministres pour une équipe de 58 personnes autour du premier ministre Bruno Tshibala. C'est un chiffre ce que l'on peut retenir d'entrée de ce gouvernement. Le deuxième enseignement, c'est la reconduction à près de 90% de l'équipe Badibanga. Les seules entrées sont les membres de l'aile du rassemblement que dirige Joseph Oleng Ankoy. Léonard Cheikh Tundu est maintenu aux affaires étrangères, Ramazani Shadari à l'intérieur et José Makila Soumanda comme vice-premier ministre en charge du transport. Au rang des ministres, Alexis Tambwe-Mamba conserve la justice comme ministre d'État. Modeste Baati-Loukwebo va au plan et cède l'économie à un ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi, Joseph Kapika. Jean-Pierre Lissanga-Bonganga est lui nommé ministre d'État en charge des relations avec le Parlement et Michel Bongongo, un proche de Léon Kengouadondo, garde la fonction publique. Lambert Mende-Omalanga, l'indétrônable porte-parole du gouvernement, reste à la communication et médias. Thomas Louakalo-Senjola aux infrastructures et Mary Okunji au poste de télécommunication. Par contre, Freddy Matungulu, Roger Lumbala, Joseph Oleng Ankoy et Raphaël Katebe Katoto, le frère aîné de Moïse Katumbi Chapwe, pressentis dans ce gouvernement en sont finalement les grands absents. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Centrafrique, 4 casques bleus tués, 8 autres grièvement blessés et un porté disparu. C'est le bilan d'une attaque armée la nuit dernière contre un convoi de la MINUSCA dans la région de Bangassou. C'est dans l'est de la République centrafricaine. Le point avec notre correspondant Bongi Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu lundi soir aux environs de 20h à 20 km de Bangassou. Le convoi visé était en provenance de Rafai, une ville de l'est centrafricain. Les assaillants seraient des miliciens anti-Balaka, plus de 500. Ils auraient pris à partie les soldats de l'ONU face à leur refus de céder aux fouilles de leurs véhicules par les hommes armés. Selon les dernières informations, l'attaque a occasionné la mort d'au moins 4 casques bleus. 7 militaires marocains et un cambodgien grièvement blessé sont évacués à Bangui pour y recevoir des soins. Pour le moment, il reste un soldat porté disparu. La MINUSCA a envoyé un hélicoptère et des renforts pour sécuriser l'endroit. Ils ont fait des recherches afin de trouver celui qui manque encore à l'appel. À Bangui, aucune réaction officielle n'était encore enregistrée jusqu'en début de soirée. Cette attaque survient alors que la région de Bangassou est en proie depuis plusieurs jours à des attaques récurrentes des bandes armées. Situation qui inquiète aussi bien l'intérieur du pays que dans la capitale Bangui.
Freeman Sipila à Bangui, au Nigeria. Une des 200 lycéennes nigériennes de Chibok enlevées par Boko Haram a refusé d'être libérée dans un échange de prisonniers avec le groupe djihadiste nigérian, déclarant qu'elle était bien et mariée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la présidence nigériane. Garba Shehu a précisé qu'il a fallu plusieurs semaines de négociations avec Boko Haram pour aboutir à la libération de 82 jeunes filles enlevées il y a 3 ans. Les États-Unis ont suspendu une aide de plus de 20 millions de dollars destinée aux services de santé du Kenya en raison d'accusations répétées de corruption et de mauvaise gestion. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Nairobi, 21 millions de dollars qui devaient aller au ministère de la Santé ont été suspendus pour une période indéterminée sur un total de 650 millions de dollars d'aide sanitaire américaine annuelle au Kenya. Washington assure que l'aide sera rétablie quand des progrès auront été accomplis en matière de lutte contre la corruption. En Libye, 11 soldats combattants pour le maréchal Khalifa Haftar ont été tués, 55 autres blessés lors d'une offensive contre les derniers bastions des djihadistes à Benghazi, la deuxième ville du pays. Les explications de Jacques Aristide.
Les combats font rage depuis hier dans les quartiers d'Al-Sabri et du centre-ville de Benghazi, tombés en 2014 aux mains des membres présumés de l'organisation État islamique et d'Ansar al-Sharia, un groupe proche d'Al-Qaïda. L'ANL, l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, livre une guerre sans relâche à ces groupes depuis ces trois dernières années et a réussi à prendre le contrôle d'une grande partie de la ville. D'après l'agence de presse loyale aux autorités de l'Est libyen, les forces pro-Haftar ont fait des avancées dans la zone de Sougal-Out où sont cernés les groupes terroristes dans leurs ultimes bastions. L'ANL affirme avoir pris le contrôle du port principal de Benghazi. Elle indique également avoir bombardé plusieurs positions des djihadistes, faisant de nombreux morts et blessés sans donner de bilan précis.
La Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye, qui est devenu un marché pour la traite des êtres humains. L'annonce a été faite hier par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. D'ailleurs, nous reviendrons donc sur le drame des migrants dans notre partie magazine avec près de 200 personnes portées disparues en Méditerranée. Une centaine de migrants africains ont réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla en franchissant la haute barrière qui la sépare du Maroc. Trois gardes civils ont été légèrement blessés. Un officiel espagnol a accusé les migrants d'avoir lancé des pierres contre les agents et endommagé plusieurs véhicules de la garde civile. Et puis, en Tunisie, le chef de l'instance électorale, Chafik Sarsar, a démissionné à la surprise générale à 7 mois des premières élections municipales de l'après-révolution. Chafik Sarsar et la commission électorale avaient été salués pour leur organisation des élections législatives et présidentielles en 2014.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, des centaines d'employés d'un site nucléaire dans l'État de Washington ont été évacués ou ont dû rester confinés après l'effondrement d'un tunnel proche du site rempli de substances contaminées. Toutefois, aucun signe de fuite radioactive n'a été constaté pour le moment, selon les autorités. Des travaux sur une route située près du tunnel ont pu provoquer des vibrations qui ont conduit à son effondrement, selon les médias locaux. En Corée du Sud, Moon Jung-in, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, a confortablement remporté les élections présidentielles hier soir, consacrant la fin de 10 ans de règne des conservateurs. Les précisions de John Lindon.
Selon un sondage sorti des urnes, Moon Jae-in, le candidat du Parti démocratique de centre-gauche, est arrivé en tête avec 41,4% des voix. Il est suivi par le conservateur Hong Jong-pyo, issu du parti de la présidence déchu, qui n'a obtenu que 23,3%. Cette présidentielle anticipée, organisée sur fond de tensions avec le Nord, a été convoquée pour remplacer l'ancienne présidente, destituée suite à un énorme scandale de corruption. Ces résultats reflètent la colère des électeurs face à la corruption d'une partie de l'élite, face au coût élevé de la vie, à l'augmentation du chômage et au ralentissement de la croissance. Le futur président, âgé de 64 ans, est favorable au dialogue avec Pyongyang et souhaite aussi mettre plus de distance dans les relations entre Séoul et Washington.
Les principaux membres de la coalition contre l'organisation État islamique se sont réunis ce mardi à Copenhague pour évaluer les besoins et la suite des actions à mener contre l'organisation EI, qui subit actuellement de sérieux revers sur le terrain en Syrie et en Irak. Un responsable américain a indiqué que davantage de moyens de déminage dans les zones évacuées par l'organisation État islamique sont nécessaires pour la coalition.
15 pays sont représentés à la réunion de Copenhague. Au Yémen, au moins 34 personnes sont mortes du choléra et plus de 2000 cas suspects ont été recensés en 11 jours seulement. L'an dernier, le Yémen avait déjà été touché par le choléra. La situation sanitaire s'étant nettement dégradée en raison de la guerre qui ravage ce pays depuis 2 ans. Et puis, en France, le président élu Macron est en pleine tractation pour constituer son gouvernement. Il a obtenu le ralliement de l'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls, son nouveau signe de l'éclatement du paysage politique français à 1 mois des législatives. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'édition 2017 du Global Muslim Travel Index place le Maroc à la tête des destinations touristiques halal en Afrique. Le royaume chérifien présente l'offre la mieux adaptée aux besoins des voyageurs musulmans sur le continent. L'Égypte arrive en deuxième position devant la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan, Djibouti et les Comores. La Gambie ferme la barre des 10 pays africains. Le marché du tourisme halal devrait continuer à croître rapidement durant les prochaines années. En 2016, il représentait 155 milliards de dollars et devrait avoisiner les 220 milliards de dollars d'ici 2020. La compagnie Ecker, opérant à partir de Brazzaville, reprend du service dans les prochaines semaines et desservira Pointe-Noire, l'Afrique centrale à Douala et Libreville, l'Afrique de l'Ouest, Dakar, Bamako et Cotonou. Un cadre de cette compagnie a aussi annoncé un partenariat avec Ethiopian Airlines en matière technique et de formation des équipages. Enfin, la Zambie, en voie de rénover son réseau routier rural dans 10 provinces, ce projet permettra de désenclaver plus de 3,5 millions de personnes vivant en milieu rural, coupé du réseau routier national, ce qui complique les échanges commerciaux des produits agricoles. Lusaka recevra de la Banque mondiale 200 millions de dollars pour financer ce projet.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par les demi-finales retour de la Ligue des Champions.
Juventus de Turin contre Monaco, la Juve qui ne perd pas contre les clubs français et la Juve qui n'a plus perdu depuis 20 mois sur sa pelouse. Il faudrait un véritable exploit de la part des Monégasques pour arriver à se qualifier pour cette finale de la Ligue des Champions. Réponse tout à l'heure, le coup d'envoi, c'est à 18h45, temps universel.
Et demain, le Real est presque déjà qualifié.
Vainqueur 3-0 au match aller la semaine dernière, le Real, 11 fois vainqueur de la Ligue des Champions, a déjà battu l'Atlético lors des finales des éditions 2014 et 2016. Et après leur succès à l'aller 3-0, les Madrilènes, qui semblent bien partis pour se qualifier aux dépens des Colchoneros, ce sera demain.
Match amical pour le Cameroun.
La Colombie affrontera le Cameroun en match amical. Ce sera le 13 juin à Madrid, avant l'ultime série de matchs de qualification au Mondial 2018. Annonce de la Fédération colombienne de football. La sélection colombienne, emmenée par l'Argentin José Pekerman, qui doit affronter l'Espagne le 7 juin à Murcie. Du côté du Cameroun, champion d'Afrique en titre, deuxième du groupe B de ses qualifications, à 4 points du Nigeria après 2 matchs. Dans le tournoi de qualification africain, on rappelle que seul le meilleur de chaque groupe est qualifié pour le Mondial.
Jeux Olympiques 2024, bientôt le grand oral pour Los Angeles.
À 4 mois de la désignation de la ville qui organisera les Jeux Olympiques 2024, Los Angeles et Paris vont recevoir cette semaine la visite de la commission d'évaluation du CIO. C'est la métropole californienne qui ouvre le bal en présentant à partir de mercredi son projet sans risque. Les responsables de LA 2024 croient avoir une candidature qui peut redéfinir l'histoire olympique en réponse au surcoût budgétaire des précédents JO et à la frilosité croissante des gouvernements, illustrée par la défection de Hambourg, Boston, Rome et Budapest dans la course aux Jeux 2024.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Golden State Warriors poursuivent sans faiblir sur le sentier de la gloire, à l'image de Stephen Curry, auteur hier soir de 30 points. Les Warriors ont balayé une 4e fois d'affilée le Utah Jazz, 121-95. Ils décrochent leur finale pour la conférence Ouest. Leur prochain adversaire s'appellera San Antonio ou Houston, qui s'affrontent toujours dans la série de victoires chacune entre les deux équipes. Eh bien, les Rockets ou les Spurs peuvent s'inquiéter puisque les Warriors n'ont toujours pas perdu le moindre match lors des playoffs cette saison.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila et le nouveau premier ministre Bruno Tshibala ont signé un décret publiant une liste de 59 membres du gouvernement devant conduire le pays aux élections de décembre 2017. L'UDPS et l'aile du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi boycottent la nouvelle équipe gouvernementale et exigent le poste de premier ministre. Eddy Sango a joint à Bruxelles le président de la coalition des Congolais pour la transition Emery Damien Kalwira, que nous allons écouter d'un moment à l'autre. Il s'agit donc du président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
Monsieur Kabila a épuisé ses deux mandats. Son parlement a aussi expiré depuis le 17 février 2017. Et par conséquent, l'évidence est là. Nous sommes en face d'un vide du pouvoir. Et ce qui est important aujourd'hui pour redonner l'espoir social et économique et aussi la paix au peuple congolais, c'est d'aller dans une transition sans M. Kabila.
Ce gouvernement est publié à la suite de la signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre.
Un accord qui ne rencontre pas la volonté des Congolais, un accord qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution, et un accord qui, par ailleurs, a apporté beaucoup plus de conflits qu'on en a résolu. C'est un accord qui a plutôt été porteur des germes des conflits, tout simplement parce que cet accord est en flagrante contradiction avec la Constitution et avec tous les Congolais. Donc, ici, les Congolais n'ont pas besoin de voir M. Kabila se soumettre à un spectacle de gouvernement qui ne dure pas. Vous voyez celui de Badibanga qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre de corruption des masses en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas.
Mais cette question a été réglée avec les dialogues tenus sous la médiation des évêques.
Vous parlez des évêques. D'ailleurs, les évêques eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils soient dans l'idée de ce fameux gouvernement d'aujourd'hui. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo. Et même les récentes révélations sur la corruption d'une société israélienne pour mener le lobbying visant à maintenir M. Kabila au pouvoir, c'est aussi un crime économique, passible de poursuites judiciaires. Et ça sera fait dès la fin de M. Kabila, en quelques jours. Donc c'est un gouvernement qui ne fera rien, qui ne va pas travailler, tout simplement parce qu'il ne répond pas aux attentes des Congolais.
Mais ce gouvernement a pour objectif d'organiser les élections, selon l'accord, avant la fin de 2017, pour qu'on revienne à la normale.
Il est démagogique, il est malsain d'oser penser qu'en 7 mois, on peut tenir une quelconque élection dans un pays aussi grand comme le nôtre.
C'était Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Élysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités, économie, immigration, sécurité. L'Afrique peut-elle attendre quelque chose de ce jeune président? Sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui lève le monopole dont bénéficiait jusque-là la SONABEL, la Société nationale d'électricité. Mais est-ce pour autant le début de la fin des délestages? De Ouagadougou, quelques éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Zoumana Wanogo.
Par ces temps de chaleur caniculaire au Faso, où la température oscille entre 40 et 45 degrés, la hantise des Burkinabés a pour nom de lestage. Alors, comment a-t-on accueilli la loi sur la libéralisation de la production énergétique au Faso? Suivons des avis.
Nous qui sommes dans le domaine de la restauration, on a beaucoup de pertes quand il y a les coupures de courant. On peut plus conserver le yaourt comme on veut, les sandwichs, les bissaps qu'on vend. Dès qu'il y a les coupures, tout se décompose. Je trouve la loi très bonne. Donc, on souhaite qu'elle soit mise en œuvre rapidement.
Le délestage au Burkina Faso, le courant se coupe, ça dure, ça prend du temps et ensuite, il y a l'eau qui suit. Donc, quand j'ai entendu une loi votée pour libéraliser le secteur de l'électricité, je suis vraiment content. Je félicite le gouvernement pour cette loi.
Pour nous, les blanchisseurs, les gens amènent des habits. Pour les passer, il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler. Mais si les privés ajoutent les sonabelles, ça nous arrange seulement. En tout cas, cette loi-là, ça, c'est bon. Si on doit prendre le privé là, ajouter, c'est ça qui est bien avec nous. Ça nous arrange. En tout cas, le délestage là, ça nous fatigue seulement. Ça ne nous permet pas de travailler.
In concreto, que dit la loi? Écoutons le ministre de l'Énergie, Alpha Omar Dissa.
La première innovation importante, c'est la suppression de la segmentation pour permettre l'installation de producteurs indépendants d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Et le producteur indépendant produit verse à la Sonabel les taxes de transport et quand l'énergie arrive à destination, le client éligible a son énergie pour ses besoins. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont la possibilité de pouvoir avoir sur leur toit des mini centrales solaires. Des gens qui ont la possibilité aujourd'hui, parce qu'ils ont installé des groupes pour leur propre consommation, et ils ont un surplus qui est là, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Aujourd'hui, la loi permet donc à ces autoproducteurs-là de vendre leur surplus donc à la Sonabel tant que ça ne dépasse pas 30% de la production. Nous avons le monopole du réseau de transport qui est réservé à la Sonabel. Nous avons dit c'est bon de pouvoir donc ouvrir la production, mais le réseau de transport, nous avons dit, doit rester entre les mains de l'État. Parce que c'est l'État qui a sa politique d'extension du réseau. C'est un processus que nous avons mis en place qui va aboutir forcément à la diminution du kilowattheure. Nous oscillons entre 130 et 150 francs comme coût de production du kilowattheure. Avec le solaire aujourd'hui, nous pouvons produire à moins de 70 francs.
Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au large de la Libye, près de 200 personnes sont toujours portées disparues suite au naufrage de deux embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre l'Europe. Près de 8000 migrants sont actuellement dans les centres de rétention et l'Organisation pour les migrations internationales aide dans l'organisation du retour dans leur pays d'origine. Pour un état des lieux, Solange Nyamulisa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Ces migrants dont on parle et qu'on dit qu'ils sont portés disparus, bien évidemment, pour la plupart, malheureusement, on ne retrouvera jamais les corps. Il s'agit de statistiques qui sont basées sur les témoignages des rescapés. Et nous savons que ces 200 morts sont probablement disparus à jamais. Cette véritable crise humanitaire qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée, il faut rappeler que depuis le début de l'année, ce sont près de 50 000 personnes qui sont arrivées en Europe et dont la majorité en Italie. Ça représente une véritable augmentation par rapport à la même période l'année dernière, aussi bien en nombre d'arrivées qu'en nombre de morts, avec plus de 1300 personnes qui ont perdu la vie depuis le 1er janvier.
Aujourd'hui, on parle des 7000 à 8000 migrants retenus dans les centres de détention en Libye. Combien des migrants sont retournés depuis le début de l'année et combien sont sur la liste d'attente?
Écoutez, vous savez, l'OIM estime à entre 500 000 et 700 000 les migrants qui sont présents en Libye actuellement, depuis le début de la crise. Bien évidemment, toutes ces personnes ne sont pas des migrants potentiels en partance pour l'Europe, c'est évident, mais beaucoup sont coincés dans ces centres de détention. Pour nous, il est fondamental de pouvoir offrir une alternative à toutes ces personnes qui sont bloquées dans le pays, qui ne veulent pas prendre le risque de traverser la Méditerranée et qui n'ont plus les moyens, aussi bien physiques que financiers, de repartir chez eux. C'est pourquoi l'OIM organise une assistance au retour volontaire, et dans le cas de la Libye, il s'agit davantage de retours humanitaires pour tous ceux des migrants en Libye qui désireraient repartir chez eux. Depuis le début de l'année, nous avons aidé l'aide au retour de quelques centaines de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest.
Quelle est la situation de ces migrants dans les centres de détention ?
Les conditions de vie dans ces centres de détention sont parfois alarmantes, c'est vrai. L'OIM a eu accès à quelques-uns de ces centres. Bien évidemment, la situation dépend aussi de la stabilisation politique et sécuritaire du pays. Et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement libyen reconnu pour pouvoir améliorer ces situations-là. Mais entre-temps, nous essayons de procéder à un maximum de retours humanitaires possibles.
C'était Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le cadre de son projet de développement hors des États-Unis, la NBA ouvrira sa 6e Académie mondiale au Sénégal. Ce premier centre NBA en Afrique sera mis en place en partenariat avec le Seed Project Sports for Education and Economic Development de Thiès, qui est une académie sénégalaise de basketball ayant produit plusieurs joueurs de haut niveau, parmi lesquels Gorgui Dien. Reportage à Dakar de Seydina Abagay.
Plusieurs jeunes venus d'un peu partout d'Afrique ont participé à la première phase de détection de la NBA Academy Africa. L'occasion pour Amadou Galofal, vice-président de la NBA Afrique, d'expliquer le choix porté sur le Sénégal.
Ce qui détermine ce choix, c'est la qualité du partenaire que nous pouvons avoir sur le terrain. Par exemple, en Australie, le partenariat avec l'Australian Institute of Sport. Et ici, comme on a eu à mener beaucoup d'activités sur le terrain, il y a une longue histoire entre le Sénégal et la NBA. Il y a une dizaine de joueurs du Sénégal qui ont joué à NBA. Et c'est juste un partenariat naturel entre la NBA et Seed.
Gorgui Dien, joueur NBA et pivot de Minnesota, se félicite de l'installation de la NBA Academy au Sénégal et espère que ce centre sera le grenier du basketball africain.
NBA Africa.
L'implantation de la NBA Academy Afrique au Sénégal est une excellente chose. Il y en a que 6 dans le monde, alors si le Sénégal est choisi pour en abriter un, ça doit être un honneur. Une fierté pour nous tous. Je pense que ça va aider les jeunes du Sénégal et de l'Afrique entière à avoir une bonne préparation pour éventuellement intégrer la NBA.
Au-delà de l'aspect sportif, l'éducation aura une place de choix dans la formation. Jean-Jacques Conceição, cette fois champion d'Afrique avec l'Angola, espère que ce centre servira aussi à former de futurs cadres africains.
Pour aider d'abord les jeunes à connaître le basket et à vouloir aussi étudier, parce que l'école, c'est le plus important, c'est le numéro un de tout, parce que l'étude, tu le gardes toute ta vie. Le basket, tu ne peux pas la garder toute ta vie, mais l'étude, c'est très, le plus important, c'est les études. CED, la fondation CED, ils sont là pour aider, pour faire tout, de donner des opportunités aux jeunes d'aller plus loin.
Le journaliste sénégalais Ahmadou Bamba Kassé estime que la NBA Academy Africa augmentera la compétitivité du basketball africain et la qualité des ressources humaines chargées de la formation.
Le fait que le centre soit ici boostera certainement les jeunes sénégalais qui voudront certainement intégrer ce centre et du centre.
NBA Academy Africa est la matérialisation du projet de la Ligue américaine de basketball pour le développement de la discipline sur le continent. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Sidrak Franklin, à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.